La parole de Dieu, ce soir, nous allons ensemble partager une pensée qui est surtout pour nous aider, nous, à saisir qui marche devant nous. Lorsque nous nous trouvons dans les difficultés, parfois on a le sentiment de se retrouver seul, de faire face aux difficultés seul. Alors que la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même nous proclame qu'il est toujours à nos côtés, mais il est question pour nous aussi de savoir que nous sommes là pour suivre le Seigneur. Sommes-nous prêts à suivre le Seigneur? Oui? Alors on va voir la parole de Dieu, on va voir que même en suivant le Seigneur, on peut passer par des moments d'épreuve, de difficulté. D'ailleurs, dans Actes chapitre 5, il est question d'un moment où les disciples, ils sont là, ils prêchent l'évangile. Je vous partage en grande ligne les choses et après on ira dans le texte effectif. Mais à partir du verset 12, il nous dit que beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Il y avait des guérisons, il y avait une action de Dieu, il y avait des conversions, il y avait des changements de cœur. L'Église, elle grandissait que des sujets de réjouissance. On pourrait se dire quel bonheur pour un pays qui aime Dieu, pour un pays qui est appelé à être le peuple de Dieu. On aurait dû finalement se dire, mais c'est le grand réveil à Jérusalem. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce qu'au verset 17, il nous dit que le souverain sacrificateur et les Sadducéens, finalement, ils étaient jaloux. La joie des uns peut finalement être la jalousie des autres, n'est-ce pas? Et dans ce texte-là, on voit que le peuple de Dieu était heureux de voir son Dieu à l'œuvre. Sommes-nous heureux de voir Dieu à l'œuvre? Alors, soyons pas étonnés que parfois, ça puisse produire ailleurs de la jalousie. Ça puisse finalement faire ressortir des comportements et des actions qui sont loin d'être spirituels, en tous les cas, de bon état d'esprit, mais indicateurs d'un problème profond, d'un souci profond, là où finalement il y a une sécheresse spirituelle et la personne, elle ne comprend pas pourquoi l'autre est béni et elle pas. Mais la réalité est la question que nous devons nous poser, qui je suis en train de suivre? Est-ce que je suis en train de suivre Jésus? Est-ce que je suis en train de suivre un homme? Est-ce que je suis en train de suivre un mouvement? Est-ce que je suis en train de suivre une idéologie? Ou finalement je suis derrière le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? La parole de Dieu nous dit que les deux disciples vont être amenés en prison, Pierre est mis en prison, il est finalement présenté après avoir été déjà délivré pendant ce temps de prison, Dieu agit et lui dit allez prêcher l'évangile, ne vous inquiétez pas. Et il retourne prêcher l'évangile. Quelle est notre première occupation? Éviter les problèmes ou prêcher l'évangile? Parfois, quand on vit un problème, on voudrait éviter de se retrouver à nouveau dans les mêmes difficultés. La prison, en tous les cas, dans ces temps-là, ces prisons n'étaient pas vraiment hospitalières. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas non plus du luxe, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était. D'accord? Et donc, ses disciples auraient pu se dire, mais bon, là, on vient de sortir de prison, on va faire profil bas pour que ça se calme un peu, et après, on va pouvoir redémarrer. Hein? Allez-y, faites ce que vous avez à faire, mais nous, on est affichés. Il faut éviter. Mais non, ils continuent et ils prêchent l'évangile, et Dieu agit, et Dieu œuvre, et Dieu guérit, et Dieu relève. Et cela, forcément, ça pose problème. Toutes les fois où Dieu se manifeste, il y en a un qui n'est pas content. Au moins un. Au moins un. Alors, finalement, ils sont ramenés devant le tribunal pour être jugés. Et je vous invite à faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu, donc Actes chapitre 5, à partir du verset 33 au verset 39. Pierre exprime ce que Christ a fait. Pierre parle de Jésus comme celui qui a été mis à la croix, accusé injustement. Et là, la réponse des religieux. En les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Non pas les faire taire, mais les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire taire ces hommes un instant. De faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps que se leva Théodas, qui se disait quelqu'un et auquel il se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute. Et il n'en resta rien. Après lui se leva Judas de Galilée et l'époque du recensement et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi et tous ceux qui l'obéissaient furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde, de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Quelle parole de sagesse! Finalement, si on regarde bien ses disciples et comme chaque enfant de Dieu, nous pouvons compter sur la défense de Dieu. Lorsque nous sommes faussement accusés, lorsque nous agissons pour le nom du Seigneur, il peut arriver qu'on soit maltraité, qu'on soit méprisé, qu'on soit rejeté, voire même qu'on nous empêche de parler de la bonté de Dieu. Néanmoins, Dieu est capable de finalement faire lever un avocat là où nous, on n'en avait pas, où on n'en avait pas les moyens. Dieu a prévu dans ce lieu où ses disciples étaient présentés, dans ce lieu où ses disciples devaient passer presque pour passer à la mort, parce que le but était là, Dieu avait prévu un homme, Gamaliel. Il aura cette autorité, il aura cette capacité, cette reconnaissance de la part du peuple pour être finalement entendu, parce que ceux qui entendaient les paroles de Pierre étaient exaspérés. L'évangile, il les exaspérait parce que finalement, Pierre était en train de dénoncer des vérités. Quand quelque chose ne nous dérange pas, ça ne nous dérange pas. Mais il y a des vérités qui dérangent. Il y a des vérités qui parfois peuvent nous mettre hors de nous-mêmes parce que ça touche là où ça fait mal. Et là, dans la question, dans le message de Pierre, il n'était pas en train de caresser les gens dans le sens du poil. Il n'était pas en train d'essayer de trouver un compromis avec les autorités religieuses. Il leur dit, vous avez mis à la croix Jésus et ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu le Père l'a ressuscité. Il est assis auprès du Père et il gouverne. Amen. Et c'est grâce à lui qu'il y a des miracles. Béni soit Dieu. Béni soit l'Éternel pour la manifestation d'autorité et de puissance. Mais la parole de Dieu nous dit que malgré en ayant entendu cette parole qui était une parole de vérité, ils le savaient très bien ce qui s'était passé. Ils auraient voulu les faire taire. Combien aujourd'hui voudraient faire taire l'évangile, la parole de Dieu? Combien voudraient éviter que Dieu rentre dans les maisons, dans les lieux de travail, dans les lieux où nous nous trouvons? Mais je crois qu'en chacun de nous, même si nous ne parlons pas, nous pouvons témoigner activement du Seigneur. Chacun de nous, nous sommes porteurs d'un message de vie, de joie, de bonheur et de grâce que le monde a besoin, plus que jamais. Plus qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, plus nous sommes convaincus que le temps est proche. Et plus nous sommes convaincus de ce fait que le Seigneur revient, ça veut dire qu'on a de moins en moins de temps pour œuvrer, donc ne dormons pas. Pierre est là et il apporte une parole au temps. Avant, il avait eu peur d'être accusé, d'être vu avec Jésus. Vous savez comment il a réagi quand on lui dira « Mais toi, tu étais avec Jésus, non, je ne le connaissais pas. » Et là, Pierre, ce n'est plus le même. Pierre est investi de cet appel, Pierre est renouvelé dans sa vie, Pierre est transformé par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ô combien nous avons besoin de cette vie et de cette réalité dans l'Esprit de Dieu. Autrement, on se bat par nos propres moyens et ça ne réussit à rien. Ça n'amène rien du tout. Gamaliel dira, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Quelle grâce de la part de Dieu d'avoir prévu quelqu'un qui finalement aurait pu, par ses propos, mettre encore les disciples en plus grande difficulté. Et je vous rappelle qu'il y en a d'autres qui sont morts. À ce temps-là, il y a eu quand même des meurtres parmi le peuple de Dieu. Et parfois, on pourrait se dire, mais pourquoi les uns sont morts et les autres, le Seigneur, il les sort de prison, le Seigneur, il les sort de cette histoire. C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore complété leur cahier des charges. Chacun de nous, nous avons été appelés à quelque chose et que Dieu nous aide à l'accomplir. Que nous ne soyons pas trouvés manquants devant Dieu. Que le jour où nous nous présenterons devant le Seigneur, nous ne soyons pas trouvés légers ou que nous ayons manqué à ce que Dieu attendait de notre part. Pierre, en tous les cas, il ne veut plus faire cette erreur. Pierre ne veut plus se retrouver dans la situation où, pour peur des hommes, finalement, il ne prend pas en considération ce que Dieu attend de lui. D'ailleurs, dans ce texte de Acte 5, il dira qu'il faut-il obéir plus. À Dieu ou aux hommes ? Alors, quand quelqu'un voudrait nous faire taire, à qui devons-nous obéir ? Quand quelqu'un voudrait nous empêcher de témoigner de la bonté de Dieu, à qui devons-nous obéir ? À qui devons-nous finalement rendre notre culte, notre louange, notre adoration ? Dieu pas seulement a permis qu'il y ait un défenseur voire même inattendu, mais la question c'est qu'il va avoir des arguments. Et c'est étonnant parce que dans cette histoire, finalement, c'est les effets que l'ennemi a voulu mettre en place pour détourner le peuple de Dieu, ces hommes qui se sont levés pour détourner le peuple du Dieu vivant, c'est ces mêmes arguments qui vont permettre de sauver les hommes que Dieu a envoyés pour apporter un message au peuple juif. Et là, il y a deux personnages, nous les avons lus, Théodas et Judas de Galilée. Ces hommes ont pu, finalement, par leurs propos, par leur manière de faire, attirer l'attention et même se faire suivre. Comme quoi, encore aujourd'hui, une personne est capable de se faire suivre, non ? Capable de tirer derrière elle une foule. Nous avons vu pendant certains moments de guerre la folie d'un homme, comment a pu amener un pays tout entier à la destruction, à amener la mort, à produire finalement de la violence, tout en se targuant d'agir pour Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce, d'amour, de bonté. Et celui qui nous devons suivre toujours, c'est le Seigneur lui-même. Encore aujourd'hui, on pourrait se sentir attiré par les discours des uns et des autres. Vous savez, c'est arrivé dans les évangiles. Les uns, ils se disaient, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, moi je suis de... Mais que Dieu nous donne d'être tous de Jésus-Christ, non ? Certes, il y a eu toujours des hommes de Dieu qui ont su, par leur attitude, par leur comportement, être aussi un encouragement, certainement. Il y a des personnes qui ont marqué les cœurs, marqué les consciences, et finalement sont devenus un peu comme un modèle, comme des pères spirituels. Mais néanmoins, eux, qui y suivaient ? Alors je crois que c'est Jésus que je dois suivre. Même si ces hommes ont été des hommes fidèles, ça reste des hommes. Et c'est Jésus qui est celui qui finalement nous a conduit à une autre dimension de notre vie spirituelle, non pas une religion, mais une vie effective et liée à celui qui nous a sauvés. Il va donner des arguments incontestables, mais Dieu est sagesse. Et il va leur donner une parole qui va leur dire, et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Cela est un enseignement aussi pour nous, hein, parce que parfois on rentre dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Parfois, on pourrait même croire que c'est à nous de défendre le Seigneur. Moi, je crois que Dieu est capable de se défendre tout seul. D'ailleurs, c'est nous qui avons besoin que lui nous aide et nous défende, n'est-ce pas ? Et dans l'histoire que nous venons de lire, à un moment, Dieu donnera une sagesse à cet homme pour parler peut-être comme il ne l'a jamais fait. Une manière de pouvoir annoncer les choses et finalement mettre tout le monde sur une ligne directrice. Laissez-les tranquilles. Combien c'est bon quand Dieu intervient. Et finalement, il nous permet de continuer à œuvrer malgré les regards et les considérations des autres. En Colossiens chapitre 2, versets 13 et 15, il est question pour nous de nous rappeler qui est celui que nous suivons. De nous rappeler aussi l'autorité qui est la sienne. En relisant ce texte, je me disais, Seigneur, quelle bonté, quelle grâce pour nous de pouvoir suivre celui qui est victorieux. N'est-ce pas ? nous ne sommes pas entraînés comme des esclaves, mais nous sommes en train de fêter celui qui est vainqueur. Vainqueur sur la mort, vainqueur sur la maladie, vainqueur sur nos problèmes. Tous les problèmes. Il n'y a pas un problème que Dieu ne puisse pas régler. Et à nous de rester de ceux qui suivent le Seigneur. Regardez, même l'ennemi sait très bien qu'un jour il va être obligé de suivre d'une certaine manière. C'est un texte particulier. Il dira, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Et moi je dis merci Seigneur pour ta défense. Ça ne veut pas dire qu'on était innocent, hein. Ça veut dire qu'on était coupable. Mais lui, il a trouvé la manière de nous sortir de notre situation. Et la suite, pas seulement il nous a sortis de ce qui était pour nous notre condamnation éternelle, mais il dit le texte, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Alors je vous décris cette image. Imaginez quand un général rentrait d'une campagne de guerre et qui était vainqueur. L'histoire nous raconte qu'il arrivait sur son char et derrière lui, il y avait cette armée qui avait vaincu, cette armée qui rentrait victorieuse du champ de bataille. Mais au milieu de cette armée, il y avait aussi ceux qui avaient été assujettis, ceux qui avaient été vaincus. Et finalement, ils devaient être amenés devant le roi pour se rendre, pour finalement se dire « J'ai été vaincu, je capitule, je suis votre esclave ». Ce texte, il nous dit que Jésus, lui, à la croix, il a vaincu Satan. Et Satan, un jour, devra se présenter devant Dieu et dire « Tu as vaincu ». Aujourd'hui, il a du mal à accepter ça, même s'il le sait. Parce que, croyez-moi, il connaît la Bible peut-être mieux que nous. Mais aujourd'hui, il ne se sent pas de dire ça. Et c'est pour ça qu'il essaie de se battre pour entraîner derrière lui, autant qu'esclave et perdu, le plus grand nombre. Mais que Seigneur garde notre cœur dans cette grâce qui nous a été accordée par le pardon de Jésus-Christ. Et que nous puissions dire, Seigneur, nous suivons celui qui a été victorieux au point de dépouiller les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, triomphant d'eux par la croix. Alors, on sait comment il faut suivre Jésus. Suivre Jésus ici-bas, c'est pas tout simplement se dire « Je suis Jésus, donc je n'aurai pas de problème ». Mais la parole de Dieu nous dit en Luc chapitre 9, verset 23, vous le connaissez, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Suivre Jésus. Cette grâce qui nous est accordée n'est pas toujours facile. La croix pèse. La croix nous fait identifier. Quand nous portons la croix de Christ, nous sommes reconnaissables. Nous sommes exposés au regard des autres. Nous sommes exposés à la jalousie, à la méchanceté, aux propos des autres. Mais en portant la croix, nous identifions à celui qui l'a amené avant nous, jusqu'au bout. Et qui a payé de sa vie pour que nous soyons libérés, pardonnés, justifiés et relevés. Alors si la parole s'arrêtait là, on pourrait se dire, ben déjà ils ont eu gain de cause, c'est pas mal, c'est assez. Mais cet homme donnera un avertissement. Gamaliel donnera un avertissement. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Cela, moi, ça m'encourage parce que ça veut dire que si je suis en train de suivre Jésus, quoi qu'il arrive, ce n'est pas contre moi, c'est Dieu. Je n'ai pas à craindre, c'est pas ma personne. Et la parole de Dieu nous parle de combat. Certes, nous sommes appelés au combat. 1 Timothée chapitre 1, versets 18 et 19, qui dira, la recommandation, c'est Paul qui dit à Timothée, que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à avoir une bonne conscience dans les combats que nous menons. À ne pas avoir agi d'une manière qui n'est pas celle que le Seigneur attend de nous, mais que nous ayons cette conscience de dire, Seigneur, je peux me présenter vers toi, Seigneur, avec une conscience pure. Et il dira, dans cette conscience, quelques-uns l'ont abandonné et ont ainsi fait naufrager en ce qui concerne la foi. Si on perd la bonne conscience devant Dieu, c'est le naufrage de la foi. Et que Dieu nous garde. À quelque part, oui, on est disqualifié parce que finalement, nous n'avons pas couru, combattu, agi selon ce que la parole de Dieu nous dit. Le combat dans la vérité et dans la pleine soumission à la parole, toujours 1 Timothée, chapitre 6, versets 11 à 14, il dira pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En peu de paroles, sois fidèle à la parole. Alors quelqu'un pourrait dire, oui, mais ça, c'est pour les pasteurs. Ah, il dit, pour toi, homme de Dieu. Mais sommes-nous des hommes et des femmes de Dieu ou pas? Oui ou non? Alors ça nous concerne tous. Amen. Et dernier texte. Parce que parler de combat, c'est une chose. Savoir identifier l'ennemi en est une autre. Éphésiens 6, versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Il est question de faire attention aux manœuvres du diable. La ruse. Est-ce qu'on est prêt à faire face aux attaques? La seule manière, c'est de suivre Jésus. Voulons-nous remporter les victoires et que Dieu soit celui qui nous défend en toutes choses? Restons fidèles à Jésus-Christ. Même là où nous ne voyons pas de solution. Moi, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un instant comment Pierre a dû se trouver, ou en tous les cas se sentir, en exprimant ce qu'il exprimait. C'était des vérités. Mais il faut arriver à les dire. Parfois, l'épreuve, elle est difficile et ça nous coupe le soufflet. Hein ? On cherche quoi dire, comment dire. Mais moi, je crois que la parole de Dieu nous rappelle que Dieu fait que le Saint-Esprit nous rappelle quoi dire, nous inspire dans nos défenses pour que l'ennemi n'ait pas le dessus. Et mon frère, ce soir, ma sœur, si tu te retrouves à faire face aux ruses de l'ennemi, garde les yeux fixés sur Jésus. Parce que quand il verra que tu regardes à Jésus et tu ne regardes pas à lui, il sait déjà qu'il est cuit. Ah oui, la preuve c'est que quand nous prononçons le nom de Jésus, il est obligé de partir, n'est-ce pas? Mais si nous déplaçons notre regard et finalement nous le suivons dans ce qu'il voudrait faire, il nous emmène loin de Jésus, par sa ruse. Il essaiera toujours de nous faire tomber, mais Dieu est fidèle et bon. Alors gardons nos mains serrées dans le Seigneur et restons derrière celui qui a déjà tout vaincu. C'est vrai, il y a des fois on se dit, Seigneur, cette situation, elle est difficile, je ne sais pas comment ça va se terminer. Moi, je crois que le Seigneur le sait, parce que lui, il l'a déjà remporté pour nous. Nous ne nous en voyons pas le bout, peut-être, mais lui, il est où? Où est ton Seigneur? Où est ton Seigneur? Où est ton Seigneur? Je veux que tu te rappelles qu'il est assis auprès du Père et que lui y règne parce qu'il a déjà remporté la victoire. Amen. On ferme nos yeux et nous voulons encore ce soir exprimer notre adoration au Seigneur et dire Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur.